Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour un nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale sur Radio Présence. Autant la semaine dernière était très calme, comme c'est souvent le cas lors des périodes de vacances scolaires, autant la semaine en cours est particulièrement chargée en termes d'événements musicaux. Je rappelle que la première représentation d'Idoménée, l'opéra de Mozart, a lieu ce mardi 27 février à l'Opéra National du Capitole et que quatre autres sont programmées jusqu'au 7 mars. Le Capitole va d'ailleurs être en feu toute la semaine avec également deux récitals mercredi et jeudi et la journée Mozart samedi 2 mars. Nous allons bien sûr vous présenter tout ça lors de cette émission où j'ai le privilège de retrouver mon ami Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous avons un invité d'honneur, Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse, qui fête sa 100e cantate sans filet dimanche prochain, le 3 mars donc, lors d'une journée se terminant à la Halle au Grain, où va être donnée la cantate BWV 100 de Jean-Sébastien Bach. En attendant, nous allons jeter un petit regard sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous aussi Serge, merci d'être encore
merci,
à mes côtés
bienvenue.
Pour co-animer ce numéro. Notre retour arrière va être court, puisque comme je l'ai dit, l'actualité musicale était très réduite la semaine passée. Nous allons en fait revenir sur un seul concert. Il a eu lieu ce lundi 26 février, tout récemment donc, à la Halle au Grain, où nous avons eu la joie de retrouver Tugan Sokiev à la tête du Mahler Chamber Orchestra et avec le violoncelliste Kian Soltani, invité par le cycle des grands interprètes. Comment se sont passées ces nouvelles retrouvailles entre le public toulousain et celui qui fut pendant plus de 15 ans le directeur musical de l'Orchestre du Capitole et, il faut bien le dire aussi, la star de la Halle au Grain.
Absolument, bah, il a été acclamé dès son entrée sur le plateau de la Halle au Grain, évidemment, après le Mahler Chamber Orchestra, qui est un orchestre particulier, hein, puisque c'est un orchestre qui a été créé à partir des anciens membres du Gustav Mahler Youth Orchestra, donc le jazz jeunesse. Et en fait, ces musiciens actuels, eh ben, j'ai appris qu'ils proviennent de 27 nationalités différentes. Vous voyez un peu. En plus, c'est un projet qui inclut une Mahler Chamber Orchestra Academy qui intègre des étudiants en formation et vraiment des étudiants de très haut niveau, inutile de le dire. Et donc, ça a été vraiment un très beau concert qui nous a permis de faire connaissance avec cet orchestre qui a des sonorités d'une grande richesse, qui est très dynamique, très réactif et apparemment qui s'entend parfaitement bien avec Tugan Sokiev, donc, qui était heureux de retrouver la Halle au Grain, évidemment, au point qu'il a ouvert le concert avec une œuvre française. La seule œuvre française du programme, le prélude à l'après-midi d'un fond de Claude Debussy, qu'il a déjà dirigé assez souvent.
Oui, avec l'Orchestre du Capitole.
Avec l'Orchestre du Capitole.
Combien de fois.
L'orchestre avec lequel il s'est familiarisé, comme il l'avoue lui-même, avec le répertoire de musique française qui avait été porté à l'extrême par Michel Plasson, évidemment, auparavant. Donc, ce prélude à l'après-midi d'un faune ressemblait un peu à un hommage au lieu qui accueillait de nouveau Tugan Sokiev et le Mahler Chamber Orchestra. Alors, c'est une interprétation à la fois personnelle et originale qui débute dans la douceur, la finesse, avec le solo de flûte joué par la soliste de l'orchestre, qui joue d'ailleurs une flûte en bois, avec un son beaucoup plus rond, beaucoup plus fin. Et puis finalement, avec un crescendo important, et puis du muscle, hein, il n'y a pas que de la douceur dans cette interprétation. Donc ça a été vraiment intéressant de découvrir cette nouvelle vision de ce prélude si célèbre, notamment à Toulouse. Ensuite, eh bien, nous avons accueilli un jeune violoncelliste, Kian Soltani, qui est né à Bregenz en Autriche, mais dans une famille de musiciens persans. Et donc c'est vraiment un musicien qui est jeune, hein, il a la trentaine, hein, qui est déjà aguerri, puisqu'il a remporté pas mal de prix, notamment en avril 2013 le concours de violoncelle Paolo Helsinki, en février 2017 le prix Leonard Bernstein en Allemagne et d'autres. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très diplômé en quelque sorte. Et alors dans son interprétation du concerto pour violoncelle d'Antonin Dvorak, là il impose une vision à la fois ouverte avec poésie et vigueur, suivant les passages, avec une introduction orchestrale, mais alors déchaînée, de l'orchestre dirigé par Tougan Soukiev, un déchaînement véritablement héroïque dans cette introduction orchestrale. Et puis dès son entrée, alors le soliste là, déploie une richesse spécifique de sa sonorité et une énergie qui est parfaitement contrôlée. Donc il y a des échanges dans ce premier mouvement impressionnants, comme un dialogue à la fois apaisé et par moments on a l'impression d'un combat. Et puis, avec l'adagio, qui est à la fois un drame profond et un chant élégiaque, avec ces thèmes lyriques dont Dvorak avait le secret. Hein. Et enfin, l'allegro moderato final, là, un héroïsme très émouvant, très beau. Alors, il a été amplement acclamé, évidemment, il est revenu plusieurs fois sur le plateau, et il a offert, alors je n'oserais pas dire un bis, mais un prolongement tout à fait inattendu à l'exécution de ce concerto. Il s'est d'abord adressé au public avec micro et en français, avec un excellent français d'ailleurs, et il a voulu parler des circonstances de la composition du concerto. Il a dit que Dvorak était encore aux États-Unis lorsqu'il l'a composé et qu'il a appris là le décès d'un amour de jeunesse, une certaine Josefina Kaunikova. Et il a décidé alors d'harmoniser le motif d'une chanson qui était la chanson préférée de cette bien-aimée, lointaine on peut dire. Et donc il en a introduit des éléments secrètement dans son concerto. J'avoue que je l'ignorais, je l'ai appris ce jour-là grâce à Kian Zoltani. Et le violoncelliste lui-même a décidé d'harmoniser le motif de cette chanson préférée de la bien-aimée en question et de... finalement de l'arranger pour un ensemble de violoncelles. Et donc, il a joué en soliste, en guise de bis en quelque sorte, cette pièce, cette chanson qu'il a lui-même arrangée avec l'ensemble du pupitre des violoncelles de l'orchestre. C'était vraiment un moment étonnant et touchant à la fois. C'était vraiment très original, très nouveau. J'avais déjà vu des bis pour lesquels le soliste fait appel, par exemple, au premier violon de l'orchestre pour jouer en duo. Mais là, pour jouer avec tout le pupitre de violoncelle, une œuvre qu'il a lui-même harmonisée et arrangée. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et puis, toute la seconde partie de la soirée était consacrée à des extraits des suites 1 et 2 du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev, qui est décidément...
très en vogue, à la Lohengrin.
Très en vogue, puisqu'on l'a eu récemment avec l'Orchestre du Capitole. Et alors, comme dans la version qui avait été donnée la dernière fois, c'est le chef d'orchestre qui choisit un certain nombre de scènes de ces suites et qui leur donne, selon leur caractère musical, mais pas du tout de manière chronologique. Alors Tougan Soukiev, lui, il a choisi quand même de jouer l'intégrale de la suite numéro 2, déjà, les 7 épisodes de cette suite, et qu'il a fait suivre de 2 séquences extraites de la suite numéro 1. Et alors, donc, en fait, l'ouverture, logiquement... c'est le dramatique épisode qui est intitulé Montaigu et Capulet, un épisode explosif, on peut dire, hein, avec des tutti, des fortissimi impressionnants. Là, l'impact est sidérant. Hein. L'orchestre est d'une dynamique et d'un dynamisme en même temps tout à fait extraordinaire. Donc là, tous les pupitres à incandescence et suscités par la direction passionnée de Tougan Soukiev. Alors avec les alternances de douceur et d'héroïsme en quelque sorte, avec notamment Roméo au tombeau de Juliette, qui est un épisode là vraiment volcanique dans cette interprétation. Et puis dans la suite numéro 1, il avait juste 2 épisodes, Masque, et puis évidemment, ça s'achève sur la mort de Tybalt, qui est comme
un
toujours
classique, oui.
Un épisode très, très recherché, très dynamique, et très intéressant pour le public. Et donc ça a été vraiment une acclamation très chaleureuse de tout le public, comme on pouvait s'imaginer. Bon, il faut dire que ce répertoire coule dans les veines de Tougan Soukiev, hein. C'est son ADN en quelque sorte. Hein. Je crois me souvenir que son premier concert à Toulouse, ça avait été avec cette suite, une de ses suites, ou des extraits de Roméo et Juliette. Et donc, au salut, il est revenu évidemment sur le devant de la scène, et puis il a décidé de donner un bis. Ce bis, c'était l'épisode danse de la suite numéro 2. Et là, il ne l'a pas dirigé. Il s'est mis en retrait, laissant l'orchestre jouer sans chef, pour montrer que l'orchestre est d'une qualité impressionnante. C'était vraiment une belle démonstration qui a été largement applaudie, évidemment, par le public. Et il faut dire que le chef a été acclamé par les musiciens de l'orchestre qui ont refusé de se lever pour laisser les ovations du public s'adresser à Tougan Sokiev. Donc vraiment un concert stimulant, on peut dire.
Eh bien, nous n'allons pas réécouter un extrait de la suite Roméo et Juliette de Serge Prokofiev, mais plutôt écouter Kian Soltani dans le concerto pour violoncelle et orchestre en si mineur d'Antonin Dvorak. C'est le troisième mouvement, le final Allegro Moderato, qu'il joue avec la Staatskapelle Berlin, dirigée par Daniel Barenboim. Le troisième mouvement, le final Allegro Moderato du concerto pour violoncelle et orchestre en si mineur d'Antonin Dvorak, interprété par Kian Soltani, accompagné par la Staatskapelle Berlin, dirigée par Daniel Barenboim. Prochain concert du cycle des grands interprètes dès ce mercredi 28 février. On en parle en seconde partie d'émission avec Serge Chosy. Dans l'immédiat, petite virgule musicale pour annoncer notre rubrique Agenda. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
La partie agenda de Mélomanie, toujours avec Serge et avec Michel Brun, le fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse, qui fête donc sa 100e cantate sans filet dimanche prochain, le 3 mars, à la Halle aux Grains, où va être donnée la cantate BWV 100 de Jean-Sébastien Bach, sachant que la journée se passe en 4 temps. D'abord, dès le matin à 11h, à la salle des Illustres du Capitole, puis à 14h, à la Halle de la Cartoucherie, et enfin, à 17h et à 18h30, à la Halle aux Grains, Michel Brun nous explique comment tout ça va se dérouler lors d'une interview qu'il m'a accordée avant cette émission. Je vous propose de l'écouter maintenant. Bonjour Michel Brun. Je rappelle que l'ensemble baroque de Toulouse a été créé en 1998 et puis 10 ans plus tard, en 2008, vous lanciez le projet des cantates sans filet. Quelle était l'idée à l'origine, l'objectif et le principe de ce projet et est-ce qu'ils sont restés exactement les mêmes aujourd'hui ?
Alors oui, les idées, parce qu'il y en a plusieurs en réalité qui ont sous-tendu la naissance de ce projet, sont toujours effectivement présentes 15 ans après. Donc la première de ces idées, évidemment, c'est l'idée essentielle, c'est de jouer cette musique. Alors on pourrait dire jouer du Bach, c'est pas quelque chose de très original et c'est pas quelque chose de particulièrement aventureux. Eh bien, détrompons-nous parce que il se trouve que cette partie du répertoire de Bach, ces cantates, sont très rarement données. Tout simplement parce que ce ne sont pas des œuvres de concert, elles n'ont pas été conçues pour le concert, elles ont été conçues donc pour rentrer dans le cadre de la liturgie, en tout cas en ce qui concerne les cantates religieuses, qui sont de loin les plus connues. et que donc, lorsqu'on les donne en concert, on prend le risque qu'elles tombent un petit peu à plat. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de concerts avec au programme des cantates de Bach. Et pourtant, c'est une musique absolument géniale, sublime par moments, mais tout simplement qui se présente de manière complètement différente d'une œuvre conçue pour le concert. Alors la première donc raison, c'est jouer cette musique qui, en France, faut bien le reconnaître, est donc très rarement jouée. Et tout de suite, dès que l'idée est venue de jouer ces œuvres de Bach, eh bien la question s'est posée, donc si ça n'est pas des œuvres de concert, comment les donner ? Et tout de suite m'est venue l'idée de les présenter sous une forme complètement particulière, parce que il y a quelque chose de frappant dans cette musique, c'est que c'est une musique, on pourrait dire, c'est pas de la musique pure, c'est-à-dire c'est une musique qui est composée sur un texte, sur un livret qui est imposé au compositeur. Et d'ailleurs, à l'époque, le compositeur avait moins d'importance que le librettiste, puisque le librettiste, évidemment, s'inspirait de textes religieux. On est dans le cadre d'une liturgie, et donc ce qui compte le plus, ben, c'est les textes. Et le rôle du musicien était donc de mettre en valeur ce texte par une musique, si possible, pas trop compliquée. On ne lui demandait pas d'avoir du génie, on lui demandait simplement voilà, d'être un honnête artisan, disons, de composition musicale. Et donc, présenter ses œuvres sans les commenter, sans en donner les ressorts, sans montrer au public le lien très fort qui unit le texte et la musique, eh bien c'est un peu prendre le risque que le public passe à côté de ses œuvres en réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne sont pas données en concert, donc comme je l'ai dit, elles ont besoin d'une recontextualisation, à mon avis, en tout cas c'était mon avis, une recontextualisation pour vraiment trouver leur pleine place auprès du public. Alors dès le début, nous nous sommes posé la question, comment faire pour leur donner cette place? Eh bien l'idée est venue assez rapidement, c'était de les donner dans le cadre d'une répétition publique, qui permettait deux choses, qui permettait évidemment une première chose qui est tout simplement pour nous de répéter l'œuvre pour pouvoir la présenter ensuite devant le public, mais également pendant la répétition, de donner des clés d'écoute au public qui vont lui permettre d'apprivoiser cette musique, de mieux comprendre ses ressorts, et quand il entendra ensuite cette cantate jouée intégralement, d'avoir une sorte de guide dans son écoute qui lui permet de mieux suivre le déroulement de la cantate. Et donc, c'est vraiment un projet qui est absolument unique, je crois, dans la pratique musicale, c'est cette répétition publique, donc, à destination de travail, mais à destination aussi d'éclairage de la musique auprès du public. Cette répétition d'une heure et demie. Et donc, c'est ce que nous faisons depuis 15 ans. Le principe n'a pas changé. Et je dois dire d'ailleurs que le public est absolument friand de la répétition. C'est-à-dire, il y a même des personnes qui me disent « Je préfère l'heure et demie de répétition à l'interprétation de la cantate qui suit. » Parce que là, j'apprends vraiment quelque chose et j'ai le sentiment de rentrer au cœur même de la musique, au cœur même de l'œuvre qui est présentée. Et puis enfin, dernier point important, c'est que donc ces cantates se terminent toutes par un choral final. Alors un choral, c'est quoi ? Ben, c'est une petite mélodie, on va dire, d'une minute, une minute trente, qui à l'époque d'ailleurs était très connue de tous les Allemands de l'époque. Hein. Souvent, cette mélodie provenait d'ailleurs d'une petite mélodie profane. Le choral préféré de Jean-Sébastien Bach, la mélodie du choral préféré de Jean-Sébastien Bach, était quelques dizaines d'années, quelques siècles avant même peut-être, une chanson populaire, toute simple, qui disait « Mon cœur est ému par une tendre jeune fille ». Et donc vous voyez que, bien que ce soit un texte tout à fait profane, petit à petit, il est rentré complètement dans la tradition, on va dire, de l'époque, et il a fini par intégrer la liturgie. Et donc, ces chorales qui concluent la cantate, nous les faisons répéter au public, et une fois que le public les a répétées avec nous, eh bien, il l'interprète pour clôturer la cantate. Donc le public, dans un projet comme Cantate sans filet, est vraiment totalement inclus dans le processus musical, encore une fois en assistant à la répétition et enfin en chantant le choral final.
Est-ce que dès le début de ce projet, votre ambition a été de donner les plus de 200 cantates de Jean-Sébastien Bach ? Vous êtes vraiment parti dès le départ sur cette ambition ?
Ah, c'était absolument cette ambition. Il y a l'idée effectivement d'une intégrale, tout simplement parce que ces cantates, elles sont très individualisées, chacune a sa couleur, son orchestration, son atmosphère. Il y en a qui parlent davantage de la mort et qui sont donc plus sombres, bien que la mort à l'époque était vue évidemment comme une forme de libération. Mais quand même, lorsque Bach évoque la mort, on sent bien quand même que tout le côté tragique qu'elle peut représenter au quotidien, et il savait de quoi il parlait, hein. Lui qui était orphelin de père et de mère et qui a perdu 10 de ses 20 enfants en bas âge. Donc la mort était quelque chose de quotidien à l'époque et pour autant d'aussi difficile à apprivoiser probablement que de nos jours. Et une cantate qui va parler par contre de la vie, qui va parler du bonheur de la vie éternelle. Elle, par contre, elle va être d'une tonalité plus joyeuse. Donc ce sont des œuvres individuelles, mais elles forment une sorte de tout, qui sont un petit peu une sorte de journal intime de Jean-Sébastien Bach, dans lequel il va mettre beaucoup de choses qu'il n'a pas mis, finalement, dans des textes. Bach ne s'est jamais confié sur ses compositions, sur son style, sur sa manière d'appréhender la musique et la manière dont il organisait ses œuvres, mais il nous a laissé cette espèce de journal intime d'un compositeur que sont ces 200 cantates, et donc elles forment effectivement un tout, on n'a pas envie de choisir. Et pour nous, l'ambition est bien, en 30 ans, on était parti théoriquement pour 25 ans, mais on a pris un petit peu de retard avec le Covid, avec tout ça, en 30 ans, d'avoir donné l'intégrale des 200 cantates de Jean-Sébastien Bach.
Et donc, nous arrivons à la 100e ce dimanche 3 mars, pour lequel, ou pour laquelle plutôt, vous allez donner, aux surprises, la cantate BWV 100, Was Gott tut, das ist vollgetan, ce qui veut dire « ce que Dieu fait est bien fait », eh bien, voilà un slogan qui pourrait être celui des cantates sans filet, finalement.
Effectivement, j'y avais pas pensé, je l'avais pas vu comme ça. Alors c'est d'autant plus important que effectivement ce début de texte est répété, c'est le début de chacun des numéros de cette cantate, ce qui est un cas absolument unique, c'est-à-dire que chacun des numéros, que ce soit le premier chœur ou que ce soit chacun des arias magnifiques qui ponctuent cette cantate, commence par le même texte, effectivement, ce que Dieu fait, cela est bien fait. Et donc, on sent bien là, l'insistance de Bach sur cette phrase. Et c'est un hasard. On n'avait pas calculé notre coup. Hein. C'est un hasard que nous n'ayons pas donné la cantate numéro 100. Elles ont été classées d'une manière un petit peu arbitraire. Hein. Il faut bien reconnaître que maintenant, les musicologues et les historiens de la musique les classeraient dans un ordre très, très différent. Mais c'était un hasard merveilleux que nous n'ayons pas donné la cantate 100. Donc, nous avons choisi la cantate 100 pour cette 100e cantate qui représente donc le milieu de notre parcours, de cette aventure incroyable que nous vivons depuis 15 ans.
Est-ce que c'est une des grandes cantates de Bach ? Est-ce qu'on peut la considérer comme une des grandes ?
C'est une des grandes cantates de Bach, même si elle ne figure pas parmi les plus connues, peut-être, mais c'est une des grandes cantates de Bach. Elle a quelques caractéristiques fortes. Elle a un premier chœur extrêmement brillant, qui pourrait faire penser tout à fait, par exemple, à un concerto brandebourgeois. La partie d'orchestre pourrait tout à fait faire penser à un concerto brandebourgeois. C'est le même type d'écriture, c'est-à-dire avec un grand effectif instrumental, avec hautbois, flûte, et deux cors et timbales, qui font vraiment, on va dire, un air de fête. Et puis alors après, chacun des arias qui vont se succéder est extrêmement caractérisé et présente quelque chose de très particulier. Il y a par exemple un aria avec flûte qui est d'une virtuosité pour la flûte ébouriffante. Il y a un peu plus tard un aria avec cordes qui est dédié à la voix de basse, qui est une sorte de danse populaire qu'on dirait tout droit sortie de la cantate du café ou de la cantate des paysans de Jean-Sébastien Bach, qui sont des cantates profanes, où il a mis essentiellement de la musique de danse, et même, on va dire, de danse populaire. Et puis, il y a l'aria pour alto, qui arrive en avant-dernier numéro, avec le hautbois d'amour en solo, qui est une sorte de longue mélodie complètement bouleversante, de dialogue entre l'alto et le hautbois d'amour. Et donc, effectivement, c'est une cantate d'un niveau remarquable, mais je vais vous avouer une chose, je n'en connais pas beaucoup de faibles, je n'en connais même pas du tout de faibles des cantates. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être remarquables pour tel ou tel aria, exceptionnel, qui va nous bouleverser absolument, et il y en a dont l'ensemble est d'un haut niveau de qualité, et c'est le cas de cette cantate 100.
Avant de parler du déroulement de la journée du dimanche 3 mars, je propose qu'on écoute d'abord le premier chœur que vous évoquiez il y a quelques instants, le chœur d'ouverture de la cantate BWV 100 de Jean-Sébastien Bach. Thank you. Le chœur d'ouverture Was Gott tut, das ist Wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille, de la cantate BWV 100 de Jean-Sébastien Bach dans une version dirigée par John Elliott Gardiner. Alors Michel, comment va se dérouler cette journée du dimanche 3 mars qui va commencer dès le matin à la salle des illustres au Capitole, puis va se poursuivre à la cartouche à 14h avant la répétition publique à la Halograin à 17h, puis le concert à 18h30.
Voilà, ben on a voulu, pour cet événement qui pour nous est exceptionnel, c'est-à-dire que ce parcours représente une véritable aventure. Rendez-vous compte, lorsque nous avons démarré les cantates sans filet il y a donc 15 ans, comme vous le rappeliez, il y a eu autour de nous quelques personnes qui étaient très 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 sceptiques sur notre capacité à tenir la route au long de ce corpus d'œuvres énorme. Et c'est un véritable défi que nous nous sommes imposés. Et donc, d'être parvenus déjà jusqu'à mi-chemin de ce défi représente quelque chose de très important. Et donc nous avons voulu scander la journée, lui donner un côté un peu fête en créant différents événements. Pour cela, la première chose, c'est que nous avons contacté tous les musiciens et tous les choristes qui ont participé au cantat depuis la création du projet en 2008, comme vous l'avez rappelé. Et donc nous serons très nombreux sur scène. Ce ne sera probablement pas une formation tout à fait respectueuse des critères d'interprétation de la musique ancienne à l'heure actuelle, parce qu'on a tendu, vous le savez, après la période de la grande période où on interprétait Bach de manière romantique avec des grands orchestres symphoniques, disons, on a tendu vers, avec les instruments anciens, des ensembles beaucoup plus réduits, etc. Là, nous serons une centaine de musiciens et de choristes sur scène qui tous, donc, ont participé au cantate depuis 15 ans. Et puis, nous avons également invité à la Halograin plus de 180 choristes de différentes chorales de Toulouse, parce que nous avons voulu inclure dans cette célébration de la centième, nous avons voulu inclure aussi toutes les forces vives du chant choral qui sont vraiment particulièrement actives à Toulouse. Et donc, il y aura beaucoup de chorales qui vont participer et en particulier aider le public pour chanter le choral final, disséminés dans la halle au grain et qui aideront le public à chanter le choral final. Mais la journée commence bien avant ce moment de la halle au grain, effectivement. J'ai demandé à un chœur ami qui s'appelle Voce Tolosa s'il voulait bien, le matin à 11h, venir interpréter des extraits d'une œuvre alors emblématique de Jean-Sébastien Bach, qu'il travaille en ce moment, pour en donner des extraits en concert dans quelques mois, de vouloir donc donner quelques extraits de la messe en si de Bach à la salle des illustres du Capitole, à 11h. Ensuite, à 14h, nous serons, nous, avec l'ensemble baroque de Toulouse. Nous créerons un événement, je n'en dis pas plus, mais ce sera une surprise. Ce ne sera pas du tout quelque chose version de concert, mais ce sera vraiment un événement, on va dire, très original. À 14h, dans la halle de la cartoucherie. Et ensuite, à 15h, le même chœur, Voce Tolosa, se retrouvera à l'église du Jésus, cette église absolument étonnante, dont la décoration intérieure est étonnante et qui est habituellement fermée au public, qui sera donc exceptionnellement ouverte. Ils interpréteront à nouveau des extraits de la messe en si. Et tout ce beau monde se retrouvera donc à 17h à la halle au grain pour assister à la répétition publique qui, comme je le disais tout à l'heure, donc visera à mieux faire comprendre, faciliter l'abord de cette musique en même temps complexe et en même temps très naturelle que sont les cantates de Bach.
Petite précision très importante, tout est gratuit et ce tout au long de la journée.
Oui, c'est très important parce que les cantates sans filet sont en accès libre depuis leur création. Elles sont en accès libre pour la bonne raison que les musiciens qui y participent, qui sont professionnels, acceptent de le faire bénévolement. Et c'est très important de le dire parce qu'il y a plusieurs projets d'intégrale des cantates de Bach. Il y en a un en particulier qui est en train de trouver sa conclusion, c'est-à-dire qu'eux ont de l'avance sur nous, à Paris, dans un endroit qui s'appelle le Temple de l'âme. Ils sont en train de terminer leur intégrale. Et ils le font comme nous, bénévolement, avec une entrée libre pour le public, tout simplement, parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, parce que ce ne sont pas des œuvres de concert, donc c'est très difficile de les donner en concert, et donc, voilà, c'est le principe. Par contre, la différence qu'il y a, donc, c'est que nous procédons avec cette répétition publique, ce qui n'était pas leur cas. Donc, tous les musiciens qui jouent sont bénévoles, ce qui nous permet, effectivement, de prévoir une entrée libre pour le public. Alors, il y aura quand même des caisses à la sortie, une participation libre laissée à l'appréciation de chacun, qui sera très importante, parce que, ben vous vous en doutez, une journée comme ça comporte beaucoup de frais. Donc même si nous sommes soutenus par nos partenaires, nous aurons certainement besoin quand même d'une participation, mais laissée libre à l'appréciation de chacun à la fin de la cantate.
Autre précision peut-être importante, est-ce qu'il faut tout de même réserver, en tout cas s'inscrire à la Halograin pour avoir sa place?
Alors, c'est préférable, mais ça n'est pas indispensable. On peut se présenter le soir même, peut-être alors en prenant le risque qu'il ne reste plus de place, mais normalement, il devrait rester des places à distribuer, j'allais dire à vendre, et non, pas à vendre puisque c'est gratuit, mais à distribuer au moment même de la cantate. Voilà, donc un petit tour sur Internet n'est pas inutile, mais n'est pas indispensable.
En tout cas, moi, évidemment, je leur conseille d'une part d'aller à toutes ces propositions à 11h à la salle des Illustres, à 14h donc à la halle de la Cartoucherie, à 15h à l'église du Jésus, et puis donc à partir de 17h à la halle au Grain. Mais merci infiniment, Michel Brun, pour toutes ces explications et les détails de cette très belle journée.
Avec grand plaisir.
Je remercie encore Michel Brun de m'avoir accordé cette interview et je rappelle une nouvelle fois que l'ensemble baroque de Toulouse fête la 100e des cantates sans filet ce dimanche 3 mars. L'entrée est gratuite, mais il vaut mieux s'inscrire et réserver ses places auparavant sur le site www.baroquetoulouse.com. Avant le dimanche 3 mars, il y a beaucoup de choses à noter dans l'agenda de la semaine, à commencer donc par un autre concert à la Halle au Grain ce mercredi 28 février à 20h, celui du Hong Kong Symphonic Orchestra dirigé par Yap Van Zweden. C'est un concert du cycle des grands interprètes, comme je l'ai déjà annoncé, d'autant plus intéressant, Serge, que nous allons pouvoir y entendre le pianiste Alexandre Kantorov.
Eh oui, donc lui, on connaît bien Toulouse, hein, qui est vraiment un très grand actuellement.
Un des plus grands pianistes actuels, en France c'est sûr, mais même je pense à travers le monde.
Ah oui, oui. Non. Donc ce sera la première fois que le Hong Kong Philharmonic Orchestra vient à Toulouse et il célèbre cette saison ses 50 années d'existence. C'est vraiment une grande tournée qu'il effectue de 8 centres culturels, 5 pays européens. Et donc, il sera dirigé par celui qui est son directeur musical depuis la saison 2012-2013, ce qui fait quand même un certain temps. Donc, il y a Van Zweden, qui a notamment en 2019, qui a complété un cycle de l'Anneau du Nibelung, programmé sur 4 ans et qui a eu un succès extraordinaire. La revue Gramophone l'a élu orchestre de l'année, excusez du peu, pour cette performance. Rappelons quand même que Jaap Van Zweden a d'abord commencé sa carrière comme premier violon de l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam, ce qui n'est pas un petit orchestre. C'est ensuite qu'il a pris la baguette, on peut dire, et donc il est chef principal de l'Orchestre Symphonique des Pays-Bas, et puis de l'Orchestre de la Résidence de La Haye, et chef principal et directeur artistique de l'Orchestre Philharmonique de la Radio Néerlandaise. Vous voyez que c'est un homme très occupé, apparemment.
Surtout dans son pays d'origine.
Ah oui, 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 bien sûr. Hein. Et donc, depuis 2018, il est également directeur musical du New York Philharmonic Orchestra, qu'il quittera cette année, en 2024. Grande carrière de chef après avoir été premier violon du Concertgebouw. Alors, il a choisi donc un programme qui débute par une création, puisqu'il s'agit d'une œuvre d'un compositeur chinois d'aujourd'hui, qui s'appelle Daniel Lo Ting Cheng. C'est une pièce qui s'appelle Astérismal Dance, ce qui signifie la danse des étoiles, et qui a été écrite pour cette tournée par le compositeur chinois. C'est vraiment un compositeur, paraît-il, très actif à Hong Kong, et donc c'est une sorte de scherzo fantastique qui ouvrira le concert. Et puis, la deuxième œuvre au programme, c'est celle qui nous permettra de retrouver Alexandre Kantorov, c'est la célèbre rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov, qu'il jouera en soliste. Donc, alors bon, inutile de rappeler, mais enfin rappelons-le quand même, que Kantorov a été le brillant lauréat du concours international Tchaïkovski 2019 et que c'est un virtuose surdoué, aussi bien en maîtrise technique qu'un sens musical et un sens de l'expression. Donc c'est vraiment un grand artiste. On est vraiment heureux de le retrouver dans cette pièce hautement virtuose, évidemment, puisqu'elle est conçue sur le thème d'une œuvre très virtuose qui est le célèbre 24e Caprice pour violon de Niccolo Paganini. Et puis Rachmaninov lui-même étant un virtuose du piano.
On se retrouve entre gens de bonne compagnie.
Exactement. Nul doute que tout cela va faire des étincelles.
Un beau feu d'artifice.
Ah oui, oui, c'est certain. Exact. Alors la seconde partie du concert, elle sera consacrée à une grande œuvre connue à Toulouse, qui est la première symphonie de Gustav Mahler, symphonie baptisée Titan. C'est la symphonie la plus jouée de Gustav Mahler et la plus appréciée. Mais il faut quand même se souvenir qu'à sa création, elle n'a eu aucun succès. La première création a lieu à Budapest, ensuite à Hambourg, à Weimar et Berlin. Et cette création a attiré des critiques très négative. Un journal a écrit son poème symphonique, il s'agissait d'un poème symphonique à l'origine, son poème symphonique est vulgaire et insensé. Alors, ce qui est insensé, c'est cette critique.
C'est pas la première fois qu'un grand artiste est incompris.
Bon. Ah oui, là, c'est le cadre.
Alors, on va écouter un extrait de cette symphonie numéro 1 en ré majeur, dite Titan de Gustav Mahler, dans une version du Hong Kong Symphonic Orchestra sous la direction de Jaap van Zweden. Il s'agit de la toute fin, la fin du quatrième et dernier mouvement, Molto Appassionato. La fin du quatrième et dernier mouvement Molto Appassionato, le bien nommé Molto Appassionato de la symphonie numéro 1 en ré mineur, Titan de Gustav Mahler, interprété par le Hong Kong Symphonic Orchestra dirigé par Jaap van Zweden. Vous allez retrouver les mêmes, plus le pianiste Alexandre Kantorov, ce mercredi 28 février à la Halle aux Grains pour un concert du cycle des grands interprètes qui commence donc à 20h. Et puis le lendemain, le jeudi 29, il y a un midi du Capitole. Le ténor tchèque Petr Nekoranec s'y produit à midi et demi. Et oui, c'est midi du Capitole, mais ça commence à midi et demi, Serge.
C'est bon à savoir.
Il s'y produit avec le pianiste Vincenzo Scalera. Quel est le programme de ce récital, Serge ?
Alors, c'est un programme de mélodie et non un programme d'air d'opéra, hein, puisqu'on l'a connu, ce grand ténor, dans la distribution du Barbier de Séville en 2022. Hein. On l'a connu par l'opéra. Mais là,
et par le bel canto, en plus.
Et le bel canto. Et là, c'est toute une série de mélodies, alors avec des compositeurs très variés, qui va de Respighi, Liszt, Grieg, Martinou, Janáček...
Reynaldo Hahn.
Et puis Reynaldo Hahn, tout de même. Et Debussy. Et Gabriel Fauré. Et puis Rachmaninov, avec, pour ma part, deux inconnus. Je ne connaissais pas Carl-Léopold Sjöberg.
Suédois, sans doute.
Suédois, certainement. Et puis Ian Bell, peut-être britannique, donc.
Qui, lui, est toujours de ce monde, hein,
oui,
né
oui,
en
oui.
1980.
Exactement. Donc, vraiment, un programme très varié, avec toutes ces mélodies, avec, il y aura probablement, comme d'habitude, des bis.
Oh oui.
Ou peut-être, il abordera le monde de l'opéra.
Alors, il faut indiquer que Petr Nekoranec tient le rôle d'Arbace dans l'actuelle production d'Idomeneo.
Et voilà, dans l'un des rôles de ténor, puisqu'il y en a de nombreux ténors dans cet ouvrage. Donc, à cette occasion-là, on le retrouvera, évidemment, dans les représentations d'Idomeneo.
Et on va le retrouver avec beaucoup de plaisir, parce qu'il a vraiment une très très belle voix de ténor, Petr Nekoranec. Nous allons l'écouter dans l'air de Nadir, Les pêcheurs de perles, l'opéra de Georges Bizet, Je crois entendre encore.
Je crois entendre encore air magnifique de Nadir dans Les Pêcheurs de Perles, l'opéra de Georges Bizet, superbement chanté par Petr Nekoranec, qui donne donc à midi du Capitole, accompagné par le pianiste Vincenzo Scalera, jeudi 29 février à midi et demi à l'Opéra National du Capitole. Et puis ce même jeudi 29 février, l'Orchestre National du Capitole est en concert à 20h à la Halle aux Grains, avec un chef et un soliste invité qui ne font qu'un, puisqu'il s'agit du même musicien, le violoniste espagnol Roberto González Mandras. Serge, quel est le programme de cette soirée qui a été sous-titrée Mozart de A à Z, et il y a une bonne raison?
Mais tout simplement, c'est le grand week-end qui commence, en quelque sorte, pour célébrer le jeune Mozart. Là, en l'occurrence, ça va au-delà du jeune Mozart, puisqu'il s'agit alors d'un programme avec la première et la dernière de ses symphonies. Donc la symphonie numéro 1 en mi bémol majeur qu'il a composée, il devait avoir 8 ans à peu près, ce qui est normal pour Mozart.
Lui, parler d'œuvre de jeunesse, ça n'a pas trop de sens, il faut dire œuvre d'enfance.
Voilà, exactement. Et la dernière œuvre au programme, c'est la 41e, donc celle qui a été baptisée Jupiter. Et entre les deux, eh bien, un concerto pour violon et orchestre, le numéro 3 en sol majeur, dans lequel Roberto González Monjas sera le soliste et le chef, donc il dirigera l'orchestre depuis son archet de violon soliste. Intéressant vraiment, un programme tout Mozart avec ses œuvres extrêmes et puis cette œuvre du milieu en quelque sorte, puisque le concerto numéro 3 en question est à peu près équidistant de la première symphonie et de la 41e.
Voilà, c'est la grande semaine Mozart, puisque oui. Évidemment il y a les représentations d'Innoménée qui commencent ce mardi 27 février, qui vont se poursuivre au-delà même de la semaine en cours, bien sûr. Il y a le concert donc de l'orchestre, celui dont nous venons de parler, Mozart de A à Z, le 29 février. Et puis il y a la journée Mozart du 2 mars, dont nous allons parler. Concernant Roberto González Monjas, est-ce qu'on l'a déjà entendu à la
À ma connaissance, non.
Je ne crois pas.
Hein. Non, je n'ai
donc
pas souvenir.
Il y aura aussi le plaisir de découvrir ce musicien espagnol qui est jeune, il a 36 ans. Hein.
Oui, absolument.
Eh bien, nous allons écouter justement Roberto González Monjas en soliste dans un extrait du concerto pour violon en sol majeur numéro 3 K216 de Mozart. C'est le début du premier mouvement Allegro. Le premier mouvement Allegro du concerto pour violon en sol majeur numéro 3 K216 de Mozart, joué par Roberto González Monjas, une œuvre que le violoniste espagnol joue donc et dirige jeudi 29 février à 20h à la Halle aux Grains, à la tête de l'Orchestre National du Capitole, lors d'un concert sous-titré Mozart de A à Z, qui préfigure la grande journée Mozart du samedi 2 mars à l'Opéra National du Capitole, cette fois-ci en parallèle des représentations d'Idoménée. Et cette journée Mozart se déroule en trois temps, là aussi, il y a plusieurs temps. Donc Serge, il y a un concert à 15h, un concert à 17h30 et un concert à 20h.
Mais oui, donc une journée bien remplie.
Ah oui, c'est
belle journée Mozart. avec donc à 15h, Mozart jeune homme, musique de chambre. Et là, il s'agit d'un concert des Clés de Saint-Pierre, donc hors abonnement des Clés de Saint-Pierre, avec la flûtiste Mélisande Daudet, les violonistes Mary Handels et Laura Jaillet, les altistes Isabelle Mention et Joyce Blanco-Lewis, et le violoncelliste Gaël Sédou, dans un programme qui comporte deux quatuors à cordes, le numéro 4 milanais et le numéro 13 viennois, puis le quintet à cordes numéro 1 en si bémol majeur, et enfin un quatuor pour flûte et cordes, le quatuor numéro 1, Köchel 285. Donc, programme évidemment intégralement Mozart, avec de la musique de chambre au menu.
Alors, je précise que ce premier concert, on peut y entrer pour la modique somme de 10 euros.
Oui,
donc
oui,
en plus, si vous voulez, c'est vraiment à la portée, vous allez dire, de quasiment toutes les bourses. Et le deuxième concert, à 17h30, est gratuit, lui, et il a pour titre « Mozart, l'enfant prodige ».
Oui, alors, c'est gratuit sur réservation, donc, et c'est une conférence-concert pour les enfants à partir de 8 ans, avec une conférencière qui s'appelle Sophie Gaillot-Misca, une soprano que l'on connaît bien à Toulouse, Anaïs Constant, le violoniste Vitali Raskasov, qui est l'un des grands violonistes de l'Orchestre National du Capitole, et au piano, Lévi Gerquet. Donc voilà ce concert, concert-conférence, donc la fin d'après-midi de ce samedi de mars.
Dont le programme n'est pas indiqué, mais
non,
bon,
non.
On devine un peu ce qu'on va pouvoir y entendre. Et donc, la journée va se terminer par un concert à 20h, qui lui aussi a une entrée pour la modique somme de 10 euros. Mozart, jeune homme, musique vocale, on va entendre des leaders, des airs et des duos et des ensembles divers et variés. Alors vous allez nous indiquer les musiciens qu'on va pouvoir entendre et pour certains, pour beaucoup même découvrir ce soir-là.
Oui, alors il faut dire que ce concert est un peu organisé par Anne Lebozek, grande pianiste accompagnatrice que l'on connaît bien.
On l'entend tous les ans à l'Opéra National du Capitole depuis quelques années maintenant.
Oui, absolument. C'est une grande musicienne, vraiment, qui fait un travail magnifique. Et donc là, elle accompagne la soprano Apolline Rai-Vestal, également soprano Laurence Poudourou, la mezzo-soprane Marion Vergès-Pascal et le baryton basse Lisandre Chalon. Donc voilà, tous ces chanteurs et Anne Lebozek ont établi un programme avec un grand nombre de pièces.
Alors là, oui, c'est
c'est impressionnant.
Oui, oui.
Alors, il y a quelques pièces pour piano seul, évidemment, notamment quelques extraits des variations sur « À vous dirais-je maman », un mouvement de la sonate numéro 7, et puis des airs, avec des airs, alors extraits quelquefois d'opéra, notamment « Vieni, vieni, o mia ninetta », extrait de la Finta Semplice. La Finta Semplice, c'est un opéra qu'il a composé à 12 ans à peu
oui.
près. Donc, et puis quelques mélodies, y compris en français, Oiseau aussi tous les ans, et puis donc « Ridente la calma », etc. Si je compte, ça fait 20...
Oui, alors je pense que chacun y trouvera son bonheur là-dedans,
voilà, oui,
parce
oui,
que,
oui.
effectivement, comme je l'ai dit, c'est foisonnant.
Ah, oui.
Alors, pour illustrer le très riche et très varié programme de cette journée Mozart à l'Opéra National du Capitole, je vous propose d'écouter le quatuor pour flûte et cordes numéro 1, K285, et son premier mouvement Allegro. Il s'agit d'une version avec le très célèbre flûtiste Jean-Pierre Rampal.
Thank you.
La flûte de Jean-Pierre Rampal dans ce premier mouvement allegro du Quatuor pour flûte et cordes numéro 1 K285 de Mozart, l'une des pièces au programme du premier concert de la journée Mozart, samedi 2 mars à 15h à l'Opéra National du Capitole. Les deux autres concerts de cet après-midi dédiés à Mozart ont lieu à 17h30 et 20h. Renseignements, réservations et billetterie en ligne à l'adresse www.opera.toulouse.fr. C'est à cette même adresse que vous pouvez acheter et réserver vos places pour les 5 représentations de la nouvelle production d'Idoménée du 27 février au 7 mars, ainsi que pour le récital que donnent Karine Dehaye et Florian Sempey le 28 février à 20h et pour le midi du Capitole de Petr Nekoranec jeudi 29 février à 12h30. D'autre part, pour le concert du Hong Kong Philharmonic Orchestra dirigé par Yap Van Zweden avec le pianiste Alexandre Kantorov en soliste, mercredi 28 février à 20h à la Lograin, je vous invite à faire vos réservations sur le site www.grandsinterprètes.com. Concernant le concert Mozart de A à Z donné par l'Orchestre National du Capitole jeudi 29 février à 20h à la Lograin, avec et sous la direction du violoniste Roberto González Mantras, la billetterie est en ligne à l'adresse www.onct.toulouse.fr. Et je rappelle enfin que l'ensemble baroque de Toulouse fête sa 100e cantate sans filet ce dimanche 3 mars en donnant la cantate BWV 100 de Jean-Sébastien Bach à la Halle au Grain, répétition publique à 17h, puis concert à 18h30 sous la direction de Michel Brun. Auparavant, il y a un rendez-vous à 11h à la Salle des Illustres au Capitole et un deuxième à 14h à la Halle de la Cartoucherie, sans parler de diverses propositions ailleurs dans Toulouse. C'est gratuit, mais il est préférable de réserver ses places à la Halle au Grain en vous connectant au site www.baroquetoulouse.com où vous trouverez également tous les renseignements nécessaires sur le déroulement de cette journée. Je remercie Serge Chosy de m'avoir assisté dans l'animation de ce numéro et je remercie Michel Brun d'avoir bien voulu en être l'invité d'honneur. Merci également à Christophe Aubry, le réalisateur de ce numéro. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à vous tous qui nous écoutez chaque mardi et mercredi. Très bonne semaine musicale à tous, il y a vraiment de quoi faire. À bientôt.